Et je vous parlerai très, très rapidement des sujets du programme et de la méthode que nous aurons à suivre. Vous avez certainement sous les yeux l'intitulé du programme. Nous avons pensé consacrer ce séminaire à l'étude d'un certain nombre de textes de Maïmonide dans le Guide des égarés. Et étant donné la multiplicité infinie des sujets que l'on pourrait choisir, il fallait quand même se restreindre à quelques points. J'ai choisi déjà pour cette première semaine, les trois séances que nous aurons la première semaine, l'enseignement du Rambam, de Maïmonide, sur le livre de Job, et plus particulièrement le problème de la définition qu'il va nous proposer de la catégorie des épreuves du juste, l'épreuve, les issourine du tzaddik, l'épreuve du juste. Et le problème essentiel que pose ce sujet, c'est le caractère apparemment injuste de la souffrance du juste. J'ai pensé diviser ce sujet en deux parties. Un premier chapitre que nous étudierons ce soir et qui est le chapitre 22 de la troisième partie du Moreh Nevouchim, du Guide des égarés, sur le problème de la question de l'éventualité de la culpabilité cachée du juste comme explication des souffrances du juste. Et en deuxième partie, que nous diviserons dans les deux séances de demain et de samedi soir, le problème de la finalité des épreuves du juste. Et nous aurons un certain nombre d'exemples que Maïmonide nous cite des récits de la Bible, en particulier du Pentateuque, et probablement nous aurons à consacrer la première de ces deux dernières séances à la question de la finalité des épreuves du juste, et la troisième à une illustration particulière, probablement ça procédera aussi d'ailleurs surtout de vos propres préoccupations à travers vos questions, probablement nous prendrons comme illustration le problème comme on dit en français, du sacrifice d'Isaac, et qu'il faudrait dire en hébreu « Akedat Yitzhak » comme illustration de cette question. Et puis pour la deuxième série de cours que nous aurons la semaine prochaine, j'ai choisi deux points. Premièrement, la question du langage anthropomorphique de la Torah et l'explication que le Rambam nous en propose, le problème de « Dibera Torah Kilshon Bnei Adam » comme nous le verrons en détail. Et il s'agit du chapitre 26 de la première partie du Moreh Nevouchim. Et puis, deuxièmement, la théorie, disons la conception de Maïmonide sur la notion de la création ex nihilo. Vous voyez donc, dans ces deux derniers sujets, ce seront plutôt des préoccupations plus théologiques. Mais déjà ce soir, nous commencerons à explorer un peu l'univers de la pensée de Maïmonide concernant cette catégorie particulière de la providence, lorsque la providence semble être reliée à la créature dans la catégorie des épreuves, de la mise à l'épreuve. Ceci donc pour l'analyse très, très brève des différents sujets de préoccupation que nous essaierons d'avoir. Maintenant, du point de vue de la méthode, je pense que la méthode la plus simple consiste à prendre le texte d'emblée, le texte de Maïmonide lui-même, et de suivre son propre plan dans le déroulement du raisonnement, c'est-à-dire sans qu'il soit nécessaire d'avoir des introductions trop abondantes au sujet, simplement quelques phrases d'introduction de l'ensemble du sujet déjà ce soir. Le livre de Job et le sujet qu'il pose fait tellement problème dans la théologie juive, dans ce qu'on pourrait nommer la réflexion théologique dans la tradition juive, eh bien il semble, et d'ailleurs l'enseignement de Maïmonide va aussi un peu dans ce sens déjà, il semble que ce ne soit pas seulement le problème en soi qui fasse difficulté. Je veux dire qu'on peut arriver, et cela sera élaboré d'ailleurs par Maïmonide lui-même, à établir différentes hypothèses d'explication possibles de ce fait apparemment mystérieux, de l'injustice apparente, de la souffrance du juste, et plus exactement de cette découverte que parfois on a l'impression que plus un homme est juste, plus un homme est... On a parfois l'impression, et dans la représentation immédiate que nous avons de l'histoire des hommes, qu'on a souvent l'impression que plus un homme est juste, plus il est tzaddique, plus il est méritant, si vous voulez, et plus il souffre. Et Maïmonide va s'attacher à dissoudre cette conception des choses, comme si la conscience religieuse livrée à ses propres forces, non éclairée par sa propre tradition, considérée comme une évidence... que cela aille de soi, que la piété nous mènerait à devoir admettre cela, ce qui pour Maïmonide est inadmissible, que plus un homme est juste, plus il est soumis aux épreuves. Et déjà ce soir, Maïmonide s'attachera à évacuer cette conception. Mais ce n'est pas tellement cette découverte qui fait problème à l'intérieur de la réflexion traditionnelle juive, parce qu'on pourrait proposer, et nous verrons que cette proposition nous sera faite à travers les interventions des trois amis de Job, qui sont d'ailleurs quatre, un peu comme les mousquetaires, les quatre théologiens qui sont autour de Job, lorsque Job est assis sur son fumier et qu'il ne comprend pas ce qui lui arrive. Et alors il y a intervention de quatre de ses amis, de quatre sages, qui représentent d'ailleurs quatre explications possibles du fait que de ce qui nous est absolument mystérieux et premièrement inadmissible, qu'il y ait contradiction entre le mérite du tzaddik et son sort dans la vie, c'est-à-dire sa souffrance. Je veux dire, on pourrait trouver, et d'ailleurs, parmi ces quatre explications, une, selon Maïmonide lui-même, semble être le plus proche à l'enseignement de la tradition juive. On pourrait donc trouver une explication au phénomène. Mais ce qui fait problème, et Maïmonide nous aide à nous le découvrir, c'est que toutes ces explications, même celles qui semblent plus proches à l'enseignement de la Torah, et que nous trouverons avec celui des amis de Job qui s'appelle Eliphaz, eh bien, contredisent, en fin de compte, la conception de justice, qui est un des attributs principaux de la providence, telle qu'elle est attribuée à Dieu par l'enseignement biblique. Je voudrais bien préciser ce point. La souffrance du juste est un problème de théologie générale. Et donc, nous pourrions trouver, et la théologie juive elle-même aussi aura à nous fournir une explication de ce fait, nous pourrons trouver des hypothèses explicatives, de telle sorte de dissoudre le caractère tragique de cette découverte, qu'il y aurait apparemment contradiction irrémédiable entre la dimension du mérite moral et d'autre part le sort de l'homme dans l'histoire et dans la vie, ce qui mettrait en échec la cohérence du monothéisme fondamental de la tradition hébraïque. Mais ce n'est pas tellement cet aspect de la question qui est le plus difficile, si l'on peut dire, c'est le fait que cela vient contredire l'enseignement de la Torah elle-même. Et c'est par ce biais que nous sommes un peu invités à l'exploration du problème. Voici l'introduction que je voudrais vous proposer pour justement mettre mieux en évidence ce caractère particulier de la difficulté. Je voudrais la citer au nom du professeur Neher de qui je l'ai entendu, il s'agit d'un enseignement oral, et dans lequel le professeur Neher situe le livre de Job dans le canon biblique. Vous savez que la Bible, comme on dit en français, le Tanakh, donc en hébreu, se divise en trois grandes parties, Torah, Neviim et Ketuvim. Dans les Ketuvim, la troisième partie du Tanakh, il y a un groupement particulier, selon la tradition juive du canon biblique, de trois livres, qui sont le livre des psaumes, et le livre des proverbes et le livre de Job. On appelle le groupement de ces trois livres d'un nom symbolique, si vous voulez, de Emet, les livres de vérité, parce que chaque lettre du mot Emet renvoie à un de ces livres. Aleph de Emet renvoie à Iov, en hébreu, Iov commence par Aleph et non pas par Yud, même Michelet, les proverbes, et Tav, Tehilim. C'est une donnée traditionnelle très connue. Et dans un de ses enseignements, le professeur Neher a fait un rapport entre le début du livre des psaumes, qui nous décrit ce que doit être dans la vie et dans l'histoire, le sort du tzaddik, le sort du juste, et puis le contraste que représente le prologue de l'histoire racontée par le livre de Job, et qui nous montre précisément que dans la réalité, c'est tout le contraire qui apparaît. Le premier mot du livre des psaumes, c'est « Ashrei ha'ish »,« Heureux l'homme ». Et très rapidement, nous allons lire ce texte. Très rapidement, on voit qu'il s'agit de la description de la béatitude qui attend l'homme juste. Et voilà que le livre des psaumes commence par le récit d'un homme qui est défini comme juste, Ish Haya, un homme, il y avait un homme qui était juste, c'était Job, et on voit que le sort qu'il a dans l'existence est tout le contraire que celui qu'a décrit le début du livre des psaumes. Dans ce contraste, si vous voulez, entre les deux textes, apparaît précisément la difficulté que je signalais tout à l'heure. Semble-t-il, l'enseignement biblique, intentionnellement, plus que par méthode, se contredit lui-même pour nous faire percevoir le problème dont il veut parler, c'est-à-dire le caractère apparemment incompréhensible. et au bénéfice de quelle explication nous aurons à le voir, à tenter de le voir à travers ces trois séances, le caractère apparemment incompréhensible des épreuves du juste. Et ce qui nous paraîtra d'autant plus important, c'est le fait que Maïmonide va nous proposer une explication originale, je veux dire personnelle, à Maïmonide lui-même, et qui n'est pas, et il le dit très, très, très clairement, qui n'est pas celle que l'on entend habituellement, de façon classique, comme étant l'explication de ce problème selon la Torah. Nous aurons à voir cela tout en détail. Et bien évidemment, le fait que dans cet ensemble de Ktuvim que je vous ai cité sous le nom de Emet, le livre des psaumes, qui commence par la description du sort heureux du juste, le livre de Job, qui, au niveau de la réalité, nous montre au contraire que c'est précisément le juste qui est le plus éprouvé, et semble-t-il de façon injuste, et le troisième livre est le livre des Proverbes, et c'est donc bien dans le livre des Proverbes, de la sagesse de Salomon, Michelet, les Proverbes, que se trouvera finalement l'explication de cette contradiction. Si vous voulez, entre le Aleph et le Tav, il y a contradiction. Aleph, c'est Iov, Tav, c'est les Tehillim, le tzaddik du premier psaume, et puis c'est le même qui va nous permettre, Michelet, les Proverbes, la sagesse des Proverbes, qui nous permettrait donc de comprendre l'explication de cette contradiction plus qu'apparente. Et le professeur Neher a mis précisément en évidence l'analogie d'un mot qui se trouve et dans le premier psaume et dans le début du livre de Job et que vous allez découvrir par vous-même. Je lis d'abord le premier psaume, simultanément en hébreu et en français. « Ashrei ha'ish, heureux l'homme, asher lo halach ba'atzat resha'im, qui n'a pas suivi le conseil des resha'im, des méchants, comme on traduit, enfin de ceux qui font le mal intentionnellement, le rachar, et atzat. Cette racine hébraïque signifie, premièrement, le fait de réfléchir, délibérer pour prendre une décision. À un deuxième niveau, cela signifie un complot. Et puis, l'idée générale de ces deux niveaux de sens, délibération ou complot, c'est le conseil. Et dans les deux sens d'ailleurs que ce terme a en français, donner un conseil ou bien faire partie d'un conseil, comme on dit conseil d'administration, par exemple. Donc, première phrase, heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, ou derech hataim lo amad, qui ne se tient pas sur le chemin des pécheurs, ou bonshab letzim lo yashav, qui ne s'assoit pas avec les moqueurs. Letz en hébreu signifie insolent. Celui qui non seulement dévie des enseignements de la sagesse, mais qui moque la sagesse, qui la met en question par la moquerie. Ki im betorat Hashem chevtzo, mais cet homme, au contraire, préfère la Torah de Dieu, ou ptorato yege yom avalayla, et dans sa Torah, dans cette Torah, mais devenue la sienne, il médite jour et nuit. Et voilà quel est le sort qui doit attendre dans la béatitude l'homme juste, vehaya keretz shatul al palgemaim. Et cet homme sera comme un arbre planté sur les cours d'eau. Shatul, en hébreu, a un sens un peu différent que natuar. Natuar, ça veut dire planté définitivement. Shatul, c'est planté mais pouvant être transplanté. La nuance de sens qu'il y a ici est très importante, ça veut dire que cet homme peut être heureux partout et en toutes circonstances. Vous voyez, l'idée qu'il y a là, c'est le fait que chaque arbre a son paysage. Alors là, on dira que l'arbre est planté dans le sens de natuar. Il est planté chez lui et il fructifie chez lui. Mais chatoul, ça veut dire que même ailleurs que là où il est né, il pourrait aussi fructifier. C'est transplanté sur les cours d'eau. Asher pirio iten beito, qui donne son fruit en son temps, la coïncidence, qui est une catégorie extrêmement importante pour notre problème du bonheur dans la vie, le fait que les choses arrivent au temps où il faut. Vous comprenez l'importance de cette indication, c'est-à-dire si la réponse vient avant la demande ou trop tard après. On peut illustrer concrètement par les 1000 exemples de la vie, eh bien que tout soit disposé ontologiquement pour qu'il y ait une explication de la cohérence du monde, à chaque manque correspond un bien, Mais si le bien ne coïncide pas avec le manque, alors c'est comme si il y a dérision, beaucoup plus encore que manque. Et le bonheur, c'est le fait de pouvoir disposer du fruit dont on a besoin au temps où on en a besoin. Donc, Asher Pirio Itenbeito, qui donne son fruit en son temps, vers Alehu Loibol, et dont le feuillage ne flétrit pas. Et la destinée du feuillage. Le feuillage est là pour le fruit. Et apparemment, il n'a pas de fonction, de finalité, de sens pour lui-même. Mais voilà que pour cet homme comparé à cet arbre, même le feuillage a une finalité et un sens. Et que son feuillage ne flétrit pas, même après avoir donné le fruit. Et tout ce qu'il fait, il le réussit. Et voilà ce qu'on est censé attendre de la cohérence de la promesse biblique, qu'il y a un lien entre le mérite et le sort dans la vie. Or voilà comment commence le livre de Job. Ish haya be'eretz Outz. Il y avait un homme dans le pays de Outz, Iov Shemo, qui se nommait, je vais dire donc en français, Job, Iov, ve'haya ha'ish ahu. Et cet homme-là était Tam, intègre, Yachar, droit, rectitude, viré Elohim, craignant Dieu, Vessar Mehar, et s'écartant du mal. C'est la définition du tzaddik. Le mot de tzaddik n'est pas employé, mais il est bien évident que le verset nous met en évidence les différentes dimensions de cet homme dont parlait le psaume en disant « Heureux l'homme qui ?» Eh bien voilà, cet homme qui, c'est Job, et cependant, ce qui lui arrive, et nous le savons déjà du prologue, et ensuite de l'exposé de sa souffrance, est au contraire l'homme qui souffre le plus parce qu'il n'arrive même pas à percevoir la signification que peut avoir sa souffrance. Lorsqu'une souffrance porte avec elle l'évidence d'une finalité, alors elle est dramatique, elle reste dramatique, mais elle n'est pas tragique. La souffrance de Job semble être tragique. Il faut rappeler ici la différence essentielle qu'il y a entre l'expérience du drame et l'expérience de la tragédie. L'expérience du drame, bien, c'est la difficulté d'être, et l'homme est cette manière d'être qui consiste à vivre, à exister dans la difficulté. Il n'y a pas de drame à être une pierre, il n'y a pas de drame à être une plante, il n'y a pas de drame à vivre la vie d'un animal. Enfin, je paraphrase, mais vous comprenez le sens de ce principe. S'attache à l'existence humaine une dimension dramatique. Et la vie donc est dramatique, mais le drame a finalement toujours une solution. Et une fois la difficulté du dramatique de la vie traversée, lorsque le dénouement apparaît, alors tout se récupère, tout est compensé et tout est transfiguré. Le drame est difficile à vivre, mais en fin de compte, il mène quelque part. Et tandis que la tragédie, c'est un drame qui n'a pas de solution. C'est un drame qui se répète infiniment. Et semble-t-il, alors que d'une façon générale, la dimension tragique est complètement absente du récit biblique depuis le début de la référence au temps des commencements de l'histoire jusqu'à la fin, il n'y a aucun récit qui présente une dimension dramatique tragique. C'est au contraire la conscience grecque qui a perçu le monde dans la dimension tragique. Et donc nous serions tentés de dire, sauf le livre de Job. Et nous verrons à travers l'analyse que malgré cette apparence, que le livre de Job serait une dimension tragique dans la Bible, il n'en est rien, et de nouveau, il ne s'agit que d'un drame. Mais je voudrais, si vous voulez, pour déjà être un peu plus complet, avant même de commencer l'analyse, indiquer que le livre de Job comporte grosso modo trois parties. Premièrement, un prologue qui nous raconte les malheurs de cet homme qui est juste. Il a des enfants, et il a des richesses, il a le bonheur, il perd tout, chose après chose, jusqu'à sa santé physique et ses enfants, son bonheur et ses richesses, tout son avoir. Seul son être reste intact, comme nous le verrons en détail, et pour qu'il puisse souffrir. Si son être n'était pas intact, si la souffrance le menait à la folie, alors sa souffrance ne serait plus une épreuve, puisqu'il il ne serait pas conscient de sa souffrance. Alors pour que sa souffrance soit une vraie souffrance, il faut que le Satan qui va l'éprouver prenne la précaution de ne pas le rendre fou. Et puis ensuite, et la deuxième partie, et le livre pratiquement tout entier, ce sont les tentatives d'explication que Job lui-même et d'abord trois de ses amis, les trois théologiens principaux que je vous citerai tout à l'heure, puis un quatrième qui apparaît lorsque les quatre explications proposées apparaissent comme insuffisantes, une quatrième explication qui sera donnée, et puis et jusque-là, Dieu se tait, et on ne comprend pas comment rendre compte de cette contradiction à l'intérieur de l'enseignement biblique lui-même, qu'alors que toute la cohérence du monothéisme promet le sort de béatitude à l'homme de la loi morale, qu'il s'agit de la prise de conscience que dans la réalité c'est le contraire que l'homme vit, Job étant à la limite de paroxysme, le thème d'identité de tout un chacun à son niveau et chacun dans son équation personnelle à passer par où Job est passé. La Gemara dans Baba Batra, qui traite de ce problème du livre de Job, pose même la question de savoir si Job était juif ou non juif, de telle sorte d'introduire le fait que la destinée de Job, je ne veux pas dire son destin, mais la destinée de Job est la destinée de tout homme, qu'il soit dans les conditions où le problème est le plus difficile, l'homme du peuple juif, c'est-à-dire de la Torah, relié à la loi morale, ou qu'il ne le soit pas. Et même, c'est-à-dire chez l'autre homme, en dehors de la Torah. Et on pourrait comprendre que le problème chez les non-juifs est un problème moins difficile théologiquement, puisque là où il n'y a pas l'option que le sens de la vie, c'est la morale, eh bien le fait qu'il y ait inadéquation entre le mérite et le sort dans la vie ne ferait pas tellement problème. Mais là où le problème est le plus essentiel, c'est à l'intérieur de l'identité juive, puisque l'identité juive se définit idéalement, par la référence à la loi morale, et donc le fait que Job soit un juif fait plus difficulté que si Job était un non-juif. Ça ne veut pas dire que le Job non-juif souffrirait moins, mais le caractère de scandale théologique serait moindre. Je pense que c'est suffisamment clair. Et la Gemara laisse la discussion ouverte. On pensera soit que Job est juif, soit que Job est non-juif, mais c'est la destinée existentielle de l'homme qui consiste à expérimenter ce problème. Et puis, la conclusion. Je ne sais plus comment on dit cela dans les pièces de théâtre. Il y a prologue, ensuite l'action, et à la fin épilogue, oui, épilogue. Et alors, dans l'épilogue, on voit qu'une fois que Dieu s'explique, et tout revient à Job, tout lui est redonné. Tout lui est redonné, des enfants, c'est plus les mêmes, mais de nouveau des enfants, des richesses, ce ne sont plus les mêmes, mais de nouveau des richesses, du bonheur, c'est plus le même temps de la vie, mais c'est de nouveau du bonheur. Et puis, vous voyez, il n'y a pas tragédie. Il y a issue heureuse, comme on dit en anglais, happy end, du récit. Mais cependant, la dimension tragique revient, apparemment, dès qu'on s'aperçoit, ce que j'ai déjà un peu indiqué immédiatement, qu'il a de nouveau des enfants, mais ce ne sont plus les mêmes, et qu'il a de nouveau des richesses et des jouissances, mais ce ne sont plus les mêmes. Et est-ce que le caractère tragique n'est pas réintroduit justement par l'insistance pleine d'ironie, apparemment, de cet épilogue consistant à dire « Et après toutes ces souffrances, eh bien, il est redonné à Job tout ce qu'il avait perdu. » Mais ce qui est redonné à Job, ce n'est pas du tout ce qu'il avait perdu. C'est une compensation, autre chose. Est-ce que la tragédie ne reste pas là? Nous laisserons pour ce soir la question avec un grand point d'interrogation. Je me propose, à travers les analyses de ces trois séances, de tenter d'évacuer ce point d'interrogation et de montrer que même à travers, d'ailleurs, l'enseignement de Maïmonide, que même dans le livre de Job, la dimension tragique est absente, et que cette objection que je viens déjà de formuler ce soir n'a pas de base. Mais au bénéfice de quelle catégorie? À condition de comprendre le monde sous quel aspect, on comprendra aussi que le fait d'avoir de nouveau des richesses, des enfants, etc., n'est pas une ironie du sort, mais est au contraire la confirmation que tout cela a un sens et qu'en aucun cas la dimension tragique, malgré toutes les apparences, n'a à être introduite dans l'univers biblique, même pas dans le livre de Job. Eh bien, le terme est commun à ce prologue du livre des psaumes, « Heureux l'homme juste », et à ce prologue du livre de Job, « Un homme juste a existé, et cependant il était malheureux », vous l'avez deviné, c'est un mot qui apparaît dès la première phrase. Dans le premier verset du psaume, « Ashre ha'ish, asher lo halach ba'atza treshaim, atza, etza, ve'aya ke'etz shatul » Et puis comment commence le livre de Job ?« Ish haya be'eretz utz » La dénomination géographique du pays, je ne veux pas dire déjà fictif, mais enfin du pays conventionnel où vit cet homme qui est Job, le juste souffrant, c'est Utz. C'est un nom patronymique, d'ailleurs un nom d'homme dans les généalogies bibliques. Utz Bechoro, dans une des généalogies bibliques. Utz. Mais Utz, c'est la même racine que Etza et que Etz. Et c'est donc là le chidouche de M. Neher que je voulais citer dans cette introduction. On voit bien que la référence entre la description de ce que devrait être le sort de l'homme juste, la béatitude, et d'autre part, de qui est cet homme qui pose notre problème de la souffrance injuste du juste, est très directe. Il s'agit bien du même homme, donc la contradiction est absolue. Nous verrons qu'elle est l'explication que donne Maïmonide de ce fait que ce pays où vit Job est appelé le pays de Utz. Eh bien, au bénéfice, si vous voulez, de cette première introduction, nous allons aborder ensemble, immédiatement, le texte lui-même de Maïmonide. Donc, suivez sur le texte. Comme d'habitude, je lirai simultanément en hébreu et en français, et nous noterons, au passage, les différents problèmes qui nécessitent une analyse. Alors, pour ce soir, nous aurons à nous occuper du chapitre 22. Alors, je commence immédiatement la lecture simultanée du texte en hébreu et en français. Parashat Iyov amufla ve'anifla, hi misug ma shenachnu bo. Cette parasha, ce récit de l'histoire de Job, ce récit extraordinaire, fait partie du sujet que nous sommes en train de traiter. Il s'agit donc du sujet des chapitres précédents, Klomar, c'est-à-dire, chez où Machal, qu'il y a là une illustration, les biur hashkafot bene adam behashgacha, une illustration de l'explication que se donnent les hommes par rapport au problème de la providence. Le terme important de cette phrase, c'est hashgacha, qui se traduit en français par providence, c'est-à-dire la relation qu'il y a entre Dieu, créateur du monde, et la créature dans le monde créé après la création. La relation d'intervention de Dieu à travers l'histoire des hommes. Une des catégories de cette médiation de providence, c'est donc la mise à l'épreuve. Et ce que le Rambam nous dit, c'est que le livre de Job, intentionnellement, va nous donner une illustration des différentes thèses que les hommes peuvent formuler pour rendre compte de ce problème que j'ai décrit tout à l'heure, la mise à l'épreuve du juste. Avec Varia Darta, Mahamar Echad Mehem Bapirush. Et il est déjà connu un enseignement que nos sages ont donné dans leur explication du livre de Job. Cet enseignement est au nom de Rish Lakish, dans la Gemara de Baba Batra, à la page 15. Iyov Lohaya Velonibra et la Mashal Haya. Ici, c'est une citation de la Gemara que le Rambam nous donne, d'une des opinions concernant le livre de Job. Cette citation, je la traduis immédiatement et je l'interpréterai. Job, Iyo, Lohaya Velonibra, n'a pas été et n'a pas été créé, ça veut dire n'a pas existé comme être réel dans l'existence, et là, Mashal Haya. Mais il était un exemple. Mashal, apologue, comment dit-on cela? Exemple, illustration. On dit apologue, je pense. Symbole, si vous voulez. Enfin, vous avez compris l'idée. Cette phrase de Rish Lakish dans la Gemara a posé énormément de problèmes, comme vous pouvez le penser, aux commentateurs. Comment un maître de la Gemara peut dire, sans le, apparemment une hérésie, que Job n'a pas existé et que c'est une histoire fictive? La manière dont le Rambam utilise cette citation, c'est pour nous dire qu'effectivement l'intention du livre de Job, c'est d'être machal, c'est-à-dire d'illustrer ce problème. Je vous citerai très rapidement, c'est pas l'objet ce soir, mais je vous citerai très rapidement comment les kabbalistes lisent cette expression dans le Rambam lui-même, en corrigeant le texte, en ajoutant une lettre. Ils lisent de la manière suivante. « Iov lohaya velo nivra ela lemachal. Job n'a été et n'a été créé que pour servir d'exemple. » Et cela, si vous voulez, ça concilie et l'orthodoxie et l'hétérodoxie apparente de la formule de Resh Lakish. Je vais rapidement sur ce problème. Et on peut l'expliquer de la manière suivante. La manière dont le récit nous est redonné par la Bible est telle que cela puisse nous servir d'exemple. C'est-à-dire qu'il y a une finalité de ce récit, c'est de nous servir de machal. Et que par conséquent, c'est très fécond d'ailleurs comme note, que par conséquent, si ce type de personne humaine et son problème existent, c'est pour servir d'exemple. C'est une des finalités possibles de la souffrance du juste. Elle a à nous apprendre quelque chose. Nous verrons cela dans les dernières séances sur ce sujet. Va'asher hachav. Et l'autre opinion selon laquelle on pense, chez où Hayav et Libra, que Job a effectivement existé, Veshehu ma'ase chez Haya, et qu'il s'agit de quelque chose qui a eu lieu réellement, lo yadar lo, lozman velo makom, n'indique cependant pas ni à quel temps Job a vécu, ni à quel endroit du monde il a vécu. C'est-à-dire, c'est un homme qui pourrait être de toujours et de partout. Le texte du livre de Job n'indique pas où se trouve ce pays dont il parle, le pays de Houtz, et d'autre part n'indique pas à quelle époque de l'histoire du monde cela s'est passé. Donc même pour l'opinion selon laquelle ça s'est passé réellement, eh bien, le récit est formulé de telle sorte de nous servir premièrement et d'abord surtout d'enseignement, de machal, d'illustration des problèmes de la destinée humaine. Il y a beaucoup d'humour dans cette marloquette, dans cette dialectique de ces deux opinions dans la Gemara même, parce que le peuple juif sait très bien que Job existe, puisque le peuple juif vit l'histoire de Job. Et là, Ehad Hachamim Amar Sheaya Bime Avot. Et en particulier, ajoute le Rambam, tout en citant Baba Batra, page 15, l'une des opinions est que Job a vécu au temps des patriarches. Ve'echad amar she'aya bime Moshe. Une autre opinion dit que Job a vécu au temps de Moïse. Chaque fois d'ailleurs, la Gemara donne une justification d'après l'analyse du mot de Houtz, et où on trouve allusion à cette identité de Houtz, premièrement au temps des patriarches, deuxièmement au temps de Moïse. Ve'echad amar she'aya bime David. Troisième opinion, que Job aurait vécu au temps de David. Ve'echad amar she'aya me'ole Babel. Quatrième opinion, c'est que Job était des Olé Babel, de ceux qui sont revenus du premier exil de Babel, après la destruction du Baït Rishon, du premier temple. C'était un Olé Hadash, Job. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ve'echad amar, Shehu haya me'ole Babel. L'idée qu'il y a là, c'est qu'on peut situer théoriquement et effectivement Job à différentes époques. Très rapidement, nous allons essayer de comprendre la caractéristique commune de ces époques, de telle sorte d'avancer un peu dans l'analyse. Qui était Job, du point de vue de son type existentiel? Mais avant d'y arriver, je termine la phrase. Veze mimash et mehazek dibre misha amar, sheu lo haya velo nibra. Et cette indication qu'on pourrait situer Job à différents temps du monde, et donc à différents endroits du monde, renforce l'opinion selon laquelle il n'a pas existé un homme seulement qui serait Job dans l'histoire concrète, mais que c'est un machal. Alors ça va très loin. Ça veut dire Job, ça peut être tous les hommes, à la limite, mais dans certaines circonstances. Alors j'ouvrirai ici une parenthèse interprétative. Nous serons occupés à chercher l'explication, et probablement le mystère restera entier après nos trois séances. Nous aurons à comprendre la thèse que Job lui-même donne de sa souffrance, celle que ses quatre amis donne de sa souffrance, celle que Maïmonide va nous proposer. Nous essaierons à travers ces différentes explications de comprendre, et peut-être qu'on n'arrivera pas à comprendre complètement. Mais dans tous les cas, une des dimensions de l'analyse qui apparaîtra, c'est la nécessité de faire une distinction entre l'acte et l'être du point de vue de la définition de la faute. Ce que se cherche dans ce sujet, c'est que, est-ce qu'il n'y aurait pas quand même une culpabilité quelconque de Job qui justifierait sa souffrance ? À ce moment-là, non seulement le caractère tragique serait évacué, mais l'objection théologique fondamentale, que ce soit la Torah qui enseigne ce récit, serait elle-même aussi évacuée. Si nous arrivons à trouver, c'est ce que cherchent les théologiens amis de Job, une culpabilité quelconque, alors nous serions satisfaits. Mais nous ne pouvons pas trouver de culpabilité. D'abord parce que le texte commence par dire que Job est innocent. Il est un juste qui n'a jamais fauté. Et à la fin, lorsque Dieu se révèle pour mettre en accusation ceux qui ont accusé Job d'une quelconque culpabilité, Dieu garantit que tout cela est faux, que Job n'a aucune faute, qu'il n'est vraiment pas coupable, et que si sa souffrance a un sens, elle ne vient pas de la culpabilité. Eh bien, malgré tout, pour avancer un peu dans l'analyse, il faut faire une distinction entre l'acte et l'être dans le problème de la faute. Nous sommes habitués, surtout et familiers, à l'idée des fautes d'acte. Il y a des actes qui sont des fautes. Nous ne sommes pas du tout habitués, mais c'est peut-être là une catégorie à réinstaurer, à l'idée, une idée peut-être un peu difficile, mais qui est très hébraïque, à l'idée d'une faute d'être. Un être qui serait approximativement ce qu'il doit être, même s'il n'a aucun acte qui puisse être défini comme faute par rapport à la loi, est en faute d'être. Et peut-être que la faute d'être est beaucoup plus grave que la faute d'acte. Et nous avons déjà là une première définition d'une catégorie qui nous aidera un peu à avancer dans l'analyse. Pour nous faire comprendre, l'intention de Maïmonide, lorsqu'il cite l'enseignement de la Gemara, selon laquelle on peut situer Job à différentes époques, et quelles sont ces époques ? Eh bien, pour y arriver, il faut d'abord relire le prologue de Job. Il y a un enseignement très, très important qui, en général, ne frappe pas, qu'on ne prête pas suffisamment attention à lui. En nous décrivant le bonheur de Job, ce bonheur qu'il va perdre, le livre nous dit ceci, vous vous référez d'ailleurs au livre lui-même, il nous dit « Job avait 7 fils et 3 filles, et chaque jour de la semaine, chacun de ses enfants invitait les autres à être heureux. » Michté. On ne peut pas traduire festin, ça serait trop épicurien ici. Mais c'est le fait qu'il y a bonheur de vivre. Et le bonheur de vivre s'expérimente dans le fait d'être heureux de manger ensemble, autour de la même table. Et l'homme est un être mangeant, si j'ose dire. L'homme est un être qui assure sa vie en mangeant. Et le bonheur d'être, c'est dans l'acte de manger. Et c'est un thème extrêmement important, au point que, vous savez, la base du rite dans toute tradition et dans toute tradition religieuse est à propos et autour et à travers l'acte de nourriture. L'acte de nourriture a en lui-même un sens fondamentalement sacré, si j'ose dire, mettez entre guillemets, ce mot n'est qu'un mot français, saint, S-A-I-N-T, et saint, S-A-I-N, si j'ose dire. C'est l'acte par lequel l'homme expérimente sa condition de créature. On est devant Dieu beaucoup plus en mangeant que dans toutes autres circonstances les plus religieuses, entre guillemets. C'est la raison pour laquelle le Birkat Hamazon, c'est-à-dire la prière à propos du repas, est la plus importante de toutes les prières du rituel juif. C'est une donnée de Shulchan Aruch extrêmement importante. Le Birkat Hamazon est plus hamour, plus important que le Shmoné Esré lui-même. Parce que dans le fait de manger, on est de nouveau en situation essentielle de relation avec qui donne la vie, c'est-à-dire le Créateur. Et ce n'est pas d'ailleurs par hasard que dans les paganismes, la nourriture a été considérée comme la chair des dieux. Et puis ce paganisme-là a été poussé à la limite dans le rite chrétien, où le pain et le vin sont considérés comme étant la chair du dieu lui-même. Vous voyez comment une idée juste et importante devient païenne lorsqu'elle devient grossière. Chez Achalnu Michelo, une erreur de traduction chez les chrétiens. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Et Et donc, lorsque chacun des enfants de Job invite les autres à, j'allais dire festoyer, mais en français c'est grossier, eh bien, au michté, mais michté, il faut pourim. Imaginez, yom shekulo pourim, olam shekulo pourim. C'était ça le monde du bonheur de Job. Il y a un verset qui va nous poser le problème de ce dont je parlais immédiatement, la faute d'être. C'est que Job prenait la précaution chaque matin d'offrir un sacrifice d'expiation à cause du risque éventuel d'un blasphème qui aurait pu être formulé dans l'exagération de la joie au moment du festin de chacun de ses enfants. Ça veut dire que, je vais assez rapidement dans l'analyse, Job, nous pouvons être sûrs de lui. Il n'a aucune faute, mais lui n'est pas sûr de ses enfants. Le bonheur de ses enfants est absolu. Ils vivent dans ce monde-ci comme déjà dans le monde à venir. Mais voilà que Job a un doute, une inquiétude. Peut-être que, emporté par la jouissance d'être, ils vont blasphémer. Blasphémer, ça veut dire, finalement, ne pas reconnaître le sens ontologique du fait de recevoir l'être. Je veux dire, transformer le bonheur en jouissance. C'est là ce blasphème dont parle le texte. Et Job, inquiet de cela, prend la précaution chaque matin d'expier éventuellement une faute qui n'est pas évidente. Peut-être qu'il n'y a pas eu cette faute de tomber dans la grossièreté de la jouissance à cause de la trop grande abondance de béatitude, mais peut-être oui. Et c'est cette inquiétude de Job qui nous fait comprendre ce que la Gemara veut dire en nous disant que Job peut être situé soit au temps des patriarches, soit au temps de Moïse, soit au temps du roi David, soit au temps de la Aliyah, du retour en Israël. C'est quoi ? Chacun de ces temps est un temps de passage d'un cycle d'histoire à un cycle d'histoire. Et Job se trouvait situé chaque fois à la charnière du passage. Avant le temps des patriarches, c'était l'ancien monde. Les patriarches apparaissent dans l'histoire et un nouveau monde va commencer. Et puis, étape supplémentaire, quand Moïse apparaît au temps de la sortie d'Égypte, la sortie d'Égypte renvoie à la préhistoire tout ce qui s'est passé avant. Un nouveau cycle va commencer. Le roi David installe la souveraineté nationale d'Israël et il renvoie à la préhistoire tout ce qui se passe avant lui. Et puis, dernière étape, Olé Babel, la Ralia, renvoie à la préhistoire tout ce qui s'est passé avant. Et chaque fois, nous sommes en un temps de passage d'un monde à un autre. Et ce qui apparaît là, dans l'intention très profonde de la Gemara qui nous dit, et à chacun de ces temps, à chacun de ces temps-là, Job souffre. Quel est-il dans son identité ? Il est le juste selon les critères du cycle précédent. Mais inadapté au cycle qui commence, il souffre et il ne comprend pas pourquoi. Est-ce que c'est suffisamment clair ? C'est-à-dire qu'il est sûr de son passé, mais il n'est pas sûr de son avenir. Et cela est indiqué par cette inquiétude, ce scrupule que Job a vis-à-vis de la conduite de ses enfants. Et voyez-vous, il n'y a aucune faute d'acte, mais il y a la perception, dans ce scrupule de Job lui-même, de l'inadéquation possible à être le juste du temps qui vient. Et qui peut souffrir de cela uniquement le juste du temps passé, le juste du temps révolu. Et il est donc bien frappant de voir que la Gemara a raison de dire Job se situe très exactement à la charnière de chacune des étapes du développement de l'histoire d'Israël à travers l'histoire de l'humanité, ou il faudrait dire l'inverse, du développement de l'histoire de l'humanité à travers un de mes maîtres a illustré cela en ajoutant une autre occurrence du temps où vit Job. Et il nous disait ceci, Job, c'est de notre temps, et tous les grands-parents d'une famille juive. Vous savez, de ceux dont on dit « Ah, mon grand-père, ce saint homme !» Alors, le grand-père, qui était encore du temps de la vie juive authentique comme quelque chose qui va de soi, sans secondarisation. Et puis, voilà qu'un temps nouveau commence, et le grand-père assiste d'abord en tant que père à ce qu'on appelle l'assimilation de ses propres enfants. Et puis, en tant que grand-père, 3-4 générations, c'est fini. Alors, cet homme qui n'a aucune faute, il a vécu selon la loi souffre parce que ses enfants ne continuent pas. Lui n'a aucune faute, mais les enfants ne continuent pas. Et donc il n'y a aucune faute d'acte. Mais n'y a-t-il pas, en tout cas je pose le point d'interrogation, n'y a-t-il pas une faute d'être ? Et il s'agirait bien là d'une culpabilité, mais d'une culpabilité terrible, parce qu'elle n'est pas du tout perceptible au niveau des actes. Et elle renforce encore la gravité du problème. Alors nous avançons un peu. Klalosh el davar. Dans tous les cas, nous dit Maïmonide, ben haya ben lo haya. Soit que Job ait existé comme un personnage historique, soit qu'il ait le type de l'identité humaine à certaines occurrences. Hare bekayose vemeorao amatsu itamid nabuchu kolachokrim. Il n'en reste pas moins que tous les chercheurs hokrim, les sages, disons, qui réfléchissent sur ces problèmes, sont restés dans l'égarement devant une telle éventualité de destinée. Ad she'amu. Jusqu'à ce qu'ils sont allés jusqu'à dire, biyedi'at Hashem u'ashkachato, en ce qui concerne le problème de la connaissance que Dieu a de ce qui se passe dans le monde et de sa providence, ma shekvar hizkarti lecha, des opinions erronées qui ont été citées précédemment, kelomar, c'est-à-dire, ma sheha'adam, cette opinion erronée, deux points ouvrez les guillemets si vous voulez, ma sheha'adam atzadik hashalem, le fait que l'homme juste, parfaitement juste, yashar ma'asim, en rectitude dans ses actes, Yereahet, craignant le péché, Beyoter, même l'homme qui craint le plus le péché, Baim ala visurim udolim. Précisément, c'est à lui que viennent, c'est lui qu'atteignent les souffrances les plus grandes, Techufim birchusho ubebana vegufo, et des souffrances qui frappent ses biens, ses enfants, son propre corps, l'obéissance.